La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Le XVIIIe siècle, des lambris de Versailles au décor des petites maisons et des boudoirs s'éprend, à nouveau pourrait-on dire, de l'amour. Dieux et nymphes, seigneurs et paysannes, peintres et modèles, grandes dames et bergers sont désormais représentés par la littérature, le théâtre, l'illustration et bien sûr la peinture. Et leur transport, leurs désirs, leurs émotions se substituent aux miracles, aux saints, aux martyrs et aux héros qui jusqu'alors imposaient leurs vertus à l'esprit du temps précédent et au décor des grandes demeures. Il se dit alors, avec une douce ironie, que dans les alcôves, le berger Paris aurait vaincu le puissant Achille. La peinture, dans ce concert de soupirs, prend par la sensualité qu'elle propose et les situations qu'elle suggère une place toute particulière. La période de la Régence, plus libre, plus moderne peut-être, sera sous la houlette moins rude de Philippe de Valois, le neveu de Louis XIV, le régent donc, indulgente et même encourageante. Et les grands artistes qui réinventent l'éros de leur époque, au premier rang desquels Watteau, Boucher et Fragonard, offriront une liberté nouvelle qui déborde largement la question de l'art pour colorer les mouvements intellectuels et sociologiques de cette période de mutation entre le grand siècle de Louis XIV et la Révolution française. Un livre, une somme de connaissances, accompagnée d'une très vaste iconographie, apporte un éclairage érudit et surtout goûteux à cette question de l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle. Il s'appelle « L'amour peintre ». Et j'ai, pour en parler, la chance de recevoir mes deux invités, parmi mes deux invités, son auteur, Guillaume Faroult. Bonjour Guillaume, vous allez bien ?
Oui, bonjour Jean Deloisy, bonjour.
Et nous serons également, évidemment, avec notre référente littéraire sur ce sujet, Mathilde Cortet-Lemaire, qui a écrit une thèse importante qui s'appelle « L'invention de la courtisane au XVIIIe siècle » chez Argument, et qui va nous raconter, elle aussi, le contexte littéraire dans tout cela, dans lequel tout cela a lieu. Comment allez-vous Mathilde ?
Voluptueusement, avec un ouvrage pareil, on ne peut qu'être dans un état transporté.
Vous avez traversé l'aventure de cet ouvrage, vous êtes rendu compte à quel point c'était une somme considérable.
Ah, c'est un ouvrage d'une érudition absolument extraordinaire et magique parce qu'il fait jouer absolument la peinture et la littérature. Et je crois que c'est vraiment la grande nouveauté de cet ouvrage, c'est de parvenir à unir ces deux arts et montrer effectivement les connexions tout à fait subtiles.
Exactement. Et Guillaume Faroult, d'ailleurs, est-ce que le lien entre peinture et littérature ne réside pas dans votre titre, qui est « L'amour peintre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle », donc paru chez Cohen et Cohen, sur le mot « imagerie », je serais curieux de savoir pourquoi vous avez choisi « imagerie » plutôt que « peinture ».
Alors, j'ai quand même choisi peinture, puisqu'il y a l'amour peintre. Et déjà, rien que le choix d'amour peintre, c'est un petit clin d'œil, puisque c'est en référence à une pièce de Molière qui s'appelle Le Sicilien ou l'amour peintre, et qui est une des pièces, enfin, qui me semble très emblématique de ce que je voulais dire. C'est une pièce où un homme, pour séduire celle qu'il aime, se fait passer pour un peintre, et pour un peintre français. Et dans la pièce de Molière, la dame, qui est une dame italienne, dit « Ah, mais les Français ont quelque chose en eux de poli, de galant et d'amoureux qui les distingue de toutes les autres nations. » Donc déjà rien que l'amour peintre, c'était déjà une référence littéraire. Et après l'imagerie, c'est parce que au fond, il y a un système continu au XVIIIe siècle. La plupart des imagiers, des dessinateurs, des peintres concourent ensemble à mettre en image cet imaginaire de l'amour, ces imaginaires de l'amour, parce qu'en fait l'amour est multiple, en France au XVIIIe siècle, mais généralement, la France du XVIIIe siècle considère que le comportement amoureux est une manière de distinguer les Français des autres nations. Et en gros, enfin, pour le faire très très vite et de manière un peu rapide, l'amour tel que les Français revendiquent de le pratiquer, c'est une sorte de soft power. C'est-à-dire que la France revendique une sorte de prééminence culturelle sur le reste de l'Europe, parce que la France est parfaitement raffinée et pratique un amour très subtil qui est sa référence ultime. Et l'imagerie, en fait, c'est parce que les peintres pour les décors, mais les peintres aussi pour l'illustration des livres, et Boucher, par exemple, qui est sans doute le peintre le plus brillant, celui qui a la carrière la plus brillante de tous les artistes du XVIIIe siècle qui pratiquent le dessin et la peinture, Boucher a illustré des ouvrages, et notamment des romans, qui sont vraiment des parangons de cet art amoureux.
Mais les grands artistes comme Boucher ont une influence sur les illustrateurs, ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes les illustrateurs ?
Ben, les deux, c'est-à-dire que Boucher a été un illustrateur, c'est une part significative de sa production, il a été surtout peintre, mais il a illustré certains ouvrages qui sont vraiment des ouvrages importants, et il a illustré notamment les œuvres de Molière, et notamment il a illustré ce fameux Amour peintre, cette comédie de Molière, avec une image que je mets en exergue au tout début du livre, parce que on y voit ce peintre, qui est un peintre français, qui est un cavalier français, qui est agenouillé devant la dame qu'il aime, donc avec cette idée d'un amour très raffiné et d'un amour qui respecte la dame, où dans la relation amoureuse, c'est la dame qui est en préséance. Et Boucher a participé aussi à d'autres illustrations, mais il a aussi inspiré très fortement ceux qui se sont spécialisés dans le genre de l'illustration, principalement Gravelot, Wesson, enfin, ce sont des gens qui sont moins connus du grand public, mais ce sont des artistes qui sont très subtils et qui, eux, sont très profondément influencés par le style de Boucher, par cette recherche de l'artifice, comme signe d'une civilisation très, très élaborée, très raffinée. Et Boucher, vraiment, il participe de cette culture et il inspire cette culture. Il la façonne, en fait, il la rend l'image. Et ça, c'est un imagier.
Et Mathilde Cortet-Lemaire, quel est le paysage littéraire, au fond, autour de cette question de l'amour au XVIIIe siècle ? Est-ce que soudain apparaissent des auteurs, ou est-ce que c'est l'œuvre cachée de grands auteurs qui est en train de surgir ?
Alors, moi, je pense qu'il faut absolument relier la question de l'amour à la question du libertinage. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'idée qu'on pourrait avoir au premier abord. On a une vision aujourd'hui qui est extrêmement, peut-être, réductrice du libertinage. On associe ça uniquement à des plaisirs essentiellement sexuels, enfin, des pratiques un petit peu artificielles, voire, je dirais, cucu la praline. Mais en fait, le libertinage qui va, à mon avis, donner naissance à cette iconographie et à ces ouvrages, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui va naître au XVIIe siècle. Et c'est un mouvement qui invente, je pense, trois choses très importantes, qui va permettre d'inventer la liberté, qui va permettre d'inventer le bonheur, et qui va permettre aussi d'inventer l'énergie. Je cite en fait trois grandes thèses sur le 18e, Starobinsky, Mozy et Delon. Et cette invention, elle est liée au fait que vraiment le libertin, c'est un personnage qui littéralement signifie l'affranchi. Alors l'affranchi, affranchi de quoi ? Eh bien, c'est un personnage qui va s'affranchir de Dieu, de l'Église. C'est un personnage qui va s'affranchir du pouvoir temporel et royal, mais c'est aussi un personnage qui va s'affranchir de la toute-puissance du père de famille et de toutes les règles sociales un petit peu contraignantes. Et donc, il s'agit vraiment de refuser toute servitude. Et cette naissance d'un mouvement qui est essentiellement intellectuel, en fait, au XVIIe siècle, va peu à peu essaimer. Alors, peut-être que pour le comprendre, on peut revenir à Don Juan de Molière. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que c'est le seul mythe que la modernité a finalement créé. Et Don Juan, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un séducteur, c'est un dragueur formidable, mais c'est aussi un personnage qui s'en prend justement à Dieu, qui s'en prend à la famille en se jouant de son père, qui va remettre en cause le mariage, qui va remettre en cause le système économique avec les dettes qu'il fait, qui s'en prend aux pauvres, enfin, etc. Et qui va finir très mal. Et donc, je pense que c'est important de comprendre ça parce que, en fait, il finit mal, puisqu'il va tout droit en enfer, mais il va finir très mal comme les libertins du XVIIe siècle. On a eu des gens qui sont morts, brûlés vifs, ou qui ont vraiment vécu des tortures. Et je crois que ce mouvement, c'est ce que vous expliquez, Guillaume Farou, dans votre livre, ce mouvement va être obligé un petit peu de se cacher, ce mouvement va avancer un petit peu masqué, et ce mouvement va essentiellement prendre cette forme très plaisante, très, très rieuse, très séduisante, qui est celle justement de l'amour. Et il me semble que on va retrouver ça évidemment en littérature, on va certainement en reparler, mais aussi dans la peinture de tous ces grands auteurs, qui ont été vraiment, je pense, portés et qui sont les transmetteurs de cette volonté de liberté, de bonheur et d'énergie, qui vont trouver des moyens un petit peu détournés de les transmettre, me semble-t-il.
Guillaume Farou, vous entendez ce commentaire très, très fin, évidemment, de Mathilde Cortelemer. Ce mot de libertin, cette société qui essaye de s'affranchir, on a la sensation par moment qu'il y a pratiquement un projet politique. Vous parliez de soft power. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était une éducation de la classe dirigeante par l'amour?
Ah oui, 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 ça complètement. Alors, je remercie Mathilde Demers. Moi, j'ai consulté sa thèse sur l'invention de la courtisane dans la littérature en 1730. Hein. Je m'en suis servi et je m'en suis beaucoup inspiré. Donc, je suis très content de l'entendre. Hein. Merci beaucoup. Et j'invite, vous parlez de politique, d'amour et de politique. Moi, j'étais jeune dans les années 90. Et sur France Culture, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'était l'interview de Robert Brampton, interviewé par Jean Lebrun dans les matins, au moment où il sortait son livre qui s'appelait Édition et Sédition, et qui montrait justement que les grands ouvrages libertins, souvent les ouvrages libertins radicaux des milieux du XVIIIe siècle, qui sont des ouvrages qui prônent une liberté de mœurs, une liberté sexuelle, sont aussi des ouvrages très politiques, et politiques de manière subversive. Et ça m'a beaucoup, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, et je pense que déjà à l'époque, ça m'avait donné envie de réfléchir à la fois, enfin d'apprendre, de découvrir toute cette littérature libertine, et puis d'essayer de comprendre, en tant que moi, je suis historien d'art, d'essayer de comprendre comment toutes ces images de Fragonard qui me séduisent autant, qui semblent apparemment anodines, on a parlé de Pucula-Praline, peut-être qu'on pourrait dire Mièvre, ou en fait ces images amoureuses, elles disent des choses beaucoup plus profondes, et elles disent des choses, elles les disent, oui, masquées, c'est-à-dire qu'on est à plusieurs niveaux. Et on voit par exemple qu'une même bergerie de boucher peut sembler à un premier niveau une bergerie qui pratique un amour très respectueux, presque courtois, mais n'interdit pas d'autres niveaux de lecture qui sont des niveaux de lecture plus subversifs, plus libertins. J'en parle un peu dans mon deuxième chapitre quand je parle du loup dans la bergerie.
Oui.
La bergerie, ça peut être la bergerie de l'astrée, les bergers idéaux, de hériter des précieux, si vous voulez. Mais cette imagerie, elle peut être aussi beaucoup plus insidieuse et aussi bien dans la littérature que sous les pinceaux de Boucher ou de Fragonard.
Alors c'est curieux, cette apparition du berger et de la bergère, on a la sensation, je ne sais pas si vous l'avez ressenti Mathilde, ou si c'est on a l'impression que dans la personnalité de la bergère ou du berger qui apparaît parfois d'une façon un petit peu plus rustre, il y a l'opposition entre une culture savante qui respecte des codes pour l'approche érotique et puis une autre qui est plus pulsionnelle et plus violente, et au fond comme s'il y avait une distinction sociale qui se faisait entre le monde paysan et le monde aristocratique du point de vue de l'éros.
Alors ça, j'ai vraiment, je me suis régalée avec ce chapitre, parce qu'en fait, le loup dans la bergerie, c'est exactement ce que vous dites, et c'est très subtilement montré par Guillaume Farou. En fait, il y a des jeux, effectivement, d'opposition, d'antithèse, de renversement. Et pour moi, en fait, le loup, il prend deux formes. Peut-être une première forme, ce sont tous ces paysages de pastoral qui sont, j'ai envie de dire, finalement, pas tant l'exaltation de la nature que l'exaltation du luxe. Ce qui m'a vraiment frappée en parcours toutes ces magnifiques estampes, c'est de voir à quel point ces paysages étaient remplis, alors de moutons évidemment, mais avec des rubans absolument en soie bleue magnifique, de paniers de pique-nique, de choses extrêmement raffinées, de meubles également parfois. Et puis on voit ces grandes dames, parce que ces bergères, ce ne sont pas des vraies bergères. Je crois que les vraies bergères, on les verra peut-être plus chez Fragonard, mais ce sont en fait des grandes dames qui ont quand même un petit peu le charme de goûter à l'herbe avec des petits pieds nus. Et donc, quelque part, l'art fait mieux que la nature, et quelque part, l'art nous transporte dans des éléments naturels qui sont des éléments au comble du raffinement. Et donc là, il y a une sorte quand même de perversité qui est très intéressante et qui nous renvoie d'ailleurs aux folies, les petites maisons qu'on appelait les folies. On pense souvent que c'est parce qu'ils s'y pratiquaient des folies, mais ça vient en fait plutôt de la feuille folia, et c'était des petites maisons, donc non seulement à la campagne, mais qui avaient, je pense, des panneaux décoratifs campagnards. Et puis bien sûr, le loup, ça tout le monde le sait, c'est évidemment toutes les allusions sexuelles qui saturent ces petites estampes qui au premier regard paraissent tout à fait inoffensives et qui sont en fait très intéressantes. Alors moi je voudrais vraiment remercier Guillaume Farou parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'est un dessin de Philippe d'Orléans, donc je ne savais pas que le régent avait ces talons-là, qui s'appelle les petits pieds. Et en fait, on a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que cela va essaimer, j'ai envie de dire, dans toute notre iconographie moderne. Nous voyons un paysage qui paraît a priori naturel, des petites herbes, une grotte, mais en fait c'est le locus amoenus, c'est-à-dire c'est ce petit lieu d'amour avec tous les éléments tels que l'eau qui coule, évidemment la grotte amoureuse, des petits poutis qui tiennent un petit flambeau, deux statues enlacées, et nous voyons juste deux petites paires de pieds posées sur un petit meuble absolument délicieux avec des couvertures certainement en soie. Et je pense qu'on est vraiment dans cette sorte d'acmé de ce que sont ces bergeries, c'est-à-dire vraiment des œuvres qui vont exalter ce raffinement extraordinaire, qui vont effectivement jouer avec tous les codes de la nature, mais qui sont en fait des paysages un petit peu artificiels. Et encore une fois, ces petits pieds amoureux, on va les retrouver aujourd'hui, c'est d'une modernité folle. Donc Philippe le Régent a été l'inventeur de cette image, mais il n'a jamais voulu, je crois, que si je vous ai bien lu, que cela soit diffusé de son vivant, mais c'est une estampe absolument extraordinaire, quelque chose de magnifique.
Cette personnalité du régent Guillaume Farou est assez extraordinaire, mais avant de parler de lui, parce qu'effectivement il a été déterminant, on le comprend dans votre livre, même politiquement, par son attitude et son goût pour les arts, revenons sur ce que vient de dire Mathilde sur nos bergers, ce que vous aviez introduit tout à l'heure. Il y a dans la vision de la nature une nature que vous décrivez toujours comme à la lisière du dépeignier. Comme si les tableaux, le Watteau par exemple, étaient toujours au bord des mondes.
Ah oui, ça pour Watteau, c'est très net. Ces fêtes galantes, en fait, elles sont des fêtes particulièrement sophistiquées ou qui se met en jeu, c'est la civilisation française, donc ce raffinement parfait où un certain type d'amour galant se met en place. Mais on s'attendrait à voir ces fêtes galantes sur des parterres à la lune haute. Et en fait, pas du tout. Ils sont toujours à la lisière de grands parcs à la française. On est entre le jardin tiré au cordeau, tel que l'a voulu toute la grande scénographie du XIVe, et déjà une ouverture sur l'Arcadie, en fait. C'est une nature, mais qui est une nature, en fait, très imaginaire, très utopique. Il y a d'où ce goût, en fait, pour quelque chose, pour ce goût, oui, pour le dépeigner. C'est-à-dire, la scénographie du XIVe a permis quelque chose de très solennel, mais ce que Watteau aime, c'est en fait, un peu comme Barthes, le plaisir du texte, l'endroit où ça baille un peu, l'endroit où tout à coup un souffle vient légèrement perturber toute cette harmonie parfaite. Voilà.
Mais par exemple, l'embarquement pour Cythère, par exemple, qui est tellement connu, on a l'impression qu'il y a une perspective avec le bateau qui nous emmène ou qui nous a fait approcher jusqu'à l'île de Vénus, qui est représentée avec Eros comme une sculpture, avec Eros à ses pieds et le carquois dans la main, avec lequel il va jouer dangereusement, probablement. Et effectivement, toute la partie droite, c'est une forêt avec des vieux arbres, une forêt sombre, et on a la sensation que c'est la forêt de nos propres élans, ce qui est moins contrôlé tout d'un coup, en fait. Et c'est comme s'il y avait un jeu entre le contrôle et le non-contrôle, au fond, dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ?
Oui, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que on est dans un espace qui est celui de l'idéal, où une forme de... C'est pas les instincts chez Watteau. Enfin, en tout cas, dans cette imagerie-là, c'est pas les instincts. C'est plutôt l'espace de l'intériorité qui peut se projeter dans une nature qui est une nature à laquelle on lâche un peu la bride, mais qui est une nature qui n'est pas une nature inquiétante. En tout cas, pour le pèlerinage, on est vraiment dans un espace où il y a une sincérité. Je pense que c'est ça que représente la nature idéale du pèlerinage de l'île de Cythère. C'est-à-dire que la sophistication qu'assument très bien les personnages qui sont les amoureux qui sont représentés par Watteau, ils sont dotés d'une nature qui est une bonne nature. C'est pas encore tout à fait la belle nature de Rousseau, mais ils ont quand même déjà, ils ont une part de rêve, de sensualité, qui est une sensualité qui est intelligible.
Et Guillaume,
on n'est pas encore chez Sade non plus.
Guillaume, le Watteau a été tout de suite, évidemment, cet artiste de Valenciennes, à la psychologie un petit peu particulière, soutenu et devenu l'artiste préféré de quelques-uns qui l'ont accompagné et ont fait des commandes. Quelle a été la diffusion de l'œuvre de Watteau à ce moment-là?
Alors, au tout départ, Watteau, il est adoubé par un petit cercle d'amateurs, souvent assez proche du régent, hein, puisqu'il est adoubé par Crozat, qui est un financier, mais qui est aussi un grand collectionneur, qui est proche du régent. Il est adoubé par Caylus. Et Caylus, justement, c'est ce comte, cet aristocrate extrêmement raffiné. C'est cet aristocrate-là qui va graver le dessin du régent qui a été décrit par Mathilde Amère tout à l'heure, c'est-à-dire les petits pieds. Donc il est adoubé par une toute petite coterie, qui est une coterie de personnages qui maîtrisent à la fois les codes de la galanterie, donc le raffinement à la française, mais qui maîtrisent aussi parfaitement le libertinage avec tout ce que ça implique. Donc une certaine liberté de mœurs, mais surtout une liberté d'esprit, c'est-à-dire le libertinage est tel que le régent le pratique lui-même, c'est au fond, c'est l'esprit critique, c'est la capacité de réfléchir par soi-même et finalement d'être capable de remettre en cause, en tout cas d'interroger les différents carcans politiques, religieux, etc. Donc Watteau, il est adoubé par une petite coterie qui est extrêmement évoluée en fait.
Alors, il y a plusieurs chapitres sur Watteau, d'ailleurs, c'est normal, étant donné son importance à ce moment-là. Mais il y a un qui a un caractère légèrement sociologique qui est assez amusant et intéressant, au fond, c'est l'évolution de l'hygiène quasiment à cette époque-là. C'est Watteau en quelques chambres et où l'on voit les femmes à leur toilette, les femmes en chemise de nuit, de minu, c'est le rapport extraordinaire avec les servantes qui leur apprennent ou qui les assistent dans les différentes intimités. C'est une partie moins connue de Watteau au fond.
Lui-même, apparemment, a été un peu embarrassé avec il meurt très jeune, Watteau. Il a une santé très fragile. Il meurt à 37 ans. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il a regretté d'avoir produit des œuvres érotiques assez explicites. Et il a demandé à ce qu'on les détruise. Alors, heureusement, on les a pas détruites puisque elles existent encore. Et notamment, vous faites allusion à une merveilleuse petite peinture qui est en collection privée qui s'appelle La Toilette Intime. Et on voit on ne sait pas très bien, une grande dame ou une grande courtisane qui est en train de se faire laver intimement par une jeune servante. Et elle est dans une chambre très fastueuse avec un lit incroyable où on reconnaît les armes de l'amour, le carquois de l'amour. Donc assez clairement, quand même, on explique que cette toilette, elle est nécessaire pour l'activité de Vénus. Et là, je crois que c'est Mathilde Mère qui peut venir à mon aide, mais Watteau, donc, on a conservé quelques tableaux vraiment incroyables, dont cette toilette intime qui est vraiment magnifique, qui est un chef-d'œuvre, qui a tapé dans l'œil de mes éditeurs aussi. Là, je fais un clin d'œil à Sandra et à Stéphane Cohen qui ont porté ce livre magnifique. Et je sais qu'eux, ils sont tombés amoureux avec ce tableau. Donc, ces images, elles sont très intéressantes puisque, au fond, Watteau, il lève aussi le voile sur l'alchimie de la peinture, le fait qu'on a besoin de modèles, qu'on a besoin de très belles modèles. Et à l'époque de Watteau, les peintres les plus huppés de l'Académie sont censés étudier le nu, mais uniquement à partir d'hommes. Alors tout ça est assez hypocrite. À l'époque, on étudie le nu féminin, mais à partir de prostituées. Et c'est ce que Watteau montre le plus clairement dans certaines de ses petites peintures extrêmement cachées, et puis dans certains dessins qui là, sont assez explicites de ce point de vue-là. Et c'est là, d'ailleurs, que je me suis inspiré beaucoup de la thèse de Mathilde Lemaire. Donc peut-être que je vais venir à mon secours. Et,
Mathilde, alors, venez à notre secours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre?
Alors, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais effectivement déjà ces sanguines qui m'avaient beaucoup intéressé effectivement du temps de ma thèse. Alors moi, je trouve qu'il y a une question. Enfin, je ne suis pas aussi savante en peinture, mais ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'était vraiment la façon dont on avait l'impression de pénétrer dans l'intimité d'un personnage. Et mes recherches m'avaient amené à découvrir qu'en fait, au XVIIIe siècle, on peut se dévêtir, mais l'on ne se dénude pas. En fait, la nudité apparaît presque comme une sorte de lubie sexuelle un peu particulière, et d'ailleurs dans les bordels cela donnait lieu à une tarification très spéciale. Donc peut-être était-il un petit peu long de se déshabiller, mais je crois qu'il y avait vraiment une sorte de hantise de la nudité. Alors on peut se demander pourquoi, sans doute parce que la nudité c'est le rappel évidemment d'Adam et Ève avant la faute. La nudité c'est aussi la fragilité, bien sûr, on est à nu, et je pense que nous parlerons peut-être de ça tout à l'heure, mais il y a une scène épouvantable dans l'histoire de Juliette où l'un des libertins va dénuder une jeune fille. En fait, ça va consister à lui enlever 7 fois de suite la peau, les tissus, etc., avec ce chiffre 7 qui est éminemment aussi sacré. Et puis, bien sûr, on peut penser aussi aux images qui n'apparaissent pas dans votre livre, mais c'est bien normal, mais aux images de Dagoty sur l'ange anatomie. Mmh. C'est-à-dire qu'on est du côté du voyeurisme, voilà, de la violence, quelque chose d'horrible.
Mais un beau portrait de Dagoty par Crébillon, de Crébillon par Dagoty, oui, qui apparaît dans le livre, néanmoins.
Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre, à mon avis, dans ces scènes. Vous avez décrit effectivement le lit de cette courtisane. Il y a cette éponge, il y a ces petites mules aussi qui ont une signification érotique. On le reverra certainement avec Fragonard. Et en fait, cette scène, alors il manque un bidet. Il y a un objet absent dans la
représentation. Qui est inventé à peu près à cette période-là, non?
Voilà, exactement. Le bidet est inventé à cette époque. Mais il faut savoir que le bidet, ce n'est pas uniquement un outil de toilette, c'est quelque chose qui est très provocant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne figure pas, parce qu'il est essentiellement utilisé par les courtisanes et parce qu'il est vu aussi comme un objet permettant des pratiques anticonceptionnelles. Et donc on peut se demander si cette scène a lieu avant ou après effectivement l'amour, parce que à l'époque on n'est pas tant rebuté que cela par les odeurs. Enfin bon, on n'est plus non plus au XVIe siècle, mais en tout cas la toilette intime, elle est souvent décrite, et je ne sais pas, mais c'est une interrogation dans les livres pornographiques que j'ai pu consulter. Elle a surtout lieu après l'amour, donc ça pourrait être intéressant de se poser la question. En tout cas, ce sont des images qui, à mon avis, non seulement nous font pénétrer dans une intimité effectivement sexuelle, et qui en tout cas nous font aussi pénétrer dans autre chose, dans une autre dimension. Vous avez ouvert votre livre avec la carte de Tendre, mais je crois qu'il y a aussi une carte du désir dans votre ouvrage, et au XVIIIe siècle c'est cela aussi que l'on voit naître, c'est-à-dire ces représentations du désir, et notamment du désir féminin ici.
Et ça, de la progression vers son assouvissement, avec un ensemble d'épreuves et donc une cartographie finalement des épreuves. Cette carte du Tendre dont vous parlez, c'est celle de Madame de Scudéry, non?
Oui, alors on la trouve effectivement dans la Clélie, mais je crois que Guillaume Farou la met au début de son livre, parce qu'effectivement elle fait la transition parfaite avec les bergers. Mais il me semble qu'effectivement le XVIIIe siècle va construire une autre carte, alors que l'on peut appeler la carte de l'amour, mais qui, moi, en lisant le livre de Guillaume Farou, m'a semblé aussi être la carte du désir, parce que je pense que on voit très nettement comment, en fait, du désir d'un objet, c'est-à-dire que les femmes sont des objets de désir, elles sont représentées nues, etc. On va petit à petit, me semble-t-il, on va voir arriver le désir d'un désir. C'est-à-dire qu'on va nous montrer des femmes qui sont elles-mêmes dans des postures évoquant quand même quelque part le désir, je trouve. Puis il y a tout un parcours que l'on pourrait
faire.
Alors
on va y arriver avec Boucher et surtout Fragonard. Je vous propose le temps de reprendre notre souffle, d'écouter un petit mot toujours ambigu d'ailleurs de la part de Diderot à l'égard de tout cela. Vous nous éclairerez là-dessus d'ailleurs, Mathilde. Écoutons un petit mot de Diderot à propos de Boucher.
« son élégance, sa mignardise, sa galanterie romanesque, sa coquetterie, son goût, sa facilité, sa variété, son éclat, ses carnations fardées, sa débauche, doivent captiver les petits maîtres, les petites femmes, les jeunes gens, les gens du monde, la foule de ceux qui sont étrangers au vrai goût, à la vérité, aux idées justes, à la sévérité de l'art. Comment résisterait-il aux saillants, au libertinage, à l'éclat, aux pompons, aux tétons, aux fesses, à l'épigramme de boucher ?
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous commentons un livre qui vient de sortir par le conservateur Guillaume Faroult, qu'il s'appelle « L'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle, l'amour peintre ». Et je suis avec son auteur, Guillaume Faroult, et la professeure de littérature, Mathilde Cortet-Lemaire, pour commenter cela. Et là, nous venons d'évoquer la personnalité de Boucher, qui intervient après Watteau, hein, dans l'histoire. Guillaume, c'est un petit peu plus tard, et, mais c'est une, la filiation est une évidence.
Oui, d'autant que Boucher s'est formé à l'école de Watteau, alors pas directement puisqu'ils ne se sont pas connus directement, mais Watteau a été un des tout premiers artistes qui a suscité un tel engouement qu'on s'est mis à vouloir reproduire par la gravure l'ensemble de son œuvre, ses tableaux et tous ses dessins. Et Boucher, qui est un jeune artiste à ce moment-là, donc dans la décennie qui suit la mort de Watteau, se forme en gravant, à la demande des collectionneurs, les dessins de Watteau. Donc il le connaît de première main et au fond, même s'il ne l'a pas connu directement, il connaît son œuvre directement et il se forme auprès de lui. Enfin, il se forme directement en étudiant son œuvre et en la reproduisant.
Alors, évidemment, apparaît à ce moment-là aussi un principe de commande qui est un petit peu différent, puisqu'on commande quelque chose qui s'installe dans des lieux qui n'existaient pas auparavant, qui étaient les petites maisons et les boudoirs. Qu'est-ce que c'est que cela, Mathilde, peut-être, vous connaissez cela?
Alors, les petites maisons ou les folies, ce sont des ouvrages extrêmement raffinés d'architecture que l'on se fait construire à la campagne pour discrètement, effectivement, mener des parties fines, mener des dames galantes et puis, effectivement, pratiquer ce libertinage de mœurs à l'abri des regards, à l'abri du persiflage. Et d'ailleurs, la petite maison, c'est intéressant parce que Madame de Merteuil, elle-même, en a une. Elle va faire semblant d'en donner la clé à son amant du moment, Belleroche, mais c'est une sorte de lieu absolument vital pour tout libertin, effectivement. Et c'est un lieu dans lequel je crois que la peinture a une place très importante, puisque la plupart de ses ouvrages littéraires nous décrivent des illustrations, des tableaux, des scènes parfois mythologiques qui vont orner ces petites maisons et qui vont en fait avoir une dimension extrêmement performative. Il s'agit de ranimer les flammes défaillantes, de réveiller des convives qui auraient bu un petit peu trop de champagne. Et donc, effectivement, je crois, mais là c'est Guillaume Faroult qui va vous en parler, que Boucher a énormément participé, ainsi que d'autres artistes à l'illustration et je pense
au décor de ces maisons et des boudoirs. Guillaume Faroult, dans votre livre, vous avez mis d'ailleurs les plans d'une de ces petites maisons et il y a beaucoup d'allusions et même une photographie de l'un des boudoirs. C'est celui d'ailleurs, je crois, de la place de la Concorde.
Alors ça, c'est fabuleux puisque ce cabinet des glaces qui a été réalisé et qui existe toujours dans ce qu'on appelle l'hôtel de la Marine. Donc c'est un des deux bâtiments édifiés par à l'époque de Louis XV par l'architecte Gabriel. Donc dans ce bâtiment, l'intendant du garde-meuble royal, donc c'est au fond c'est un des très grands fonctionnaires de l'ancien régime dédié au décor, à la commande des décors pour les palais royaux, donc Monsieur de Fontanieux, pour son appartement de fonction, se fait réaliser un petit cabinet des glaces qui n'est rien moins qu'un boudoir libertin. Et ça, c'est fabuleux, puisqu'au fond, c'est le seul. Mathilde de Mer a dit qu'on parle beaucoup des boudoirs libertins en littérature, ça énormément. Et en littérature, que ce soit Diderot ou d'autres auteurs libertins, disent que Boucher a orné ce type de boudoir, mais en fait, dans les faits, on peut que le suspecter, puisqu'on n'en a aucun témoignage conservé. Le seul témoignage qui soit conservé, c'est ce cabinet des glaces, qui est truffé de glaces partout, il y a des glaces au plafond, des glaces qui sont recouvertes de peinture, avec des petits amours. Le cabinet, juste, il est fascinant, mais il nous est parvenu presque intact, puisqu'il a quand même été un tout petit peu censuré une fois que l'appartement de fonction est passé au successeur de M. Fontanieux. Son successeur a repeint, a rhabillé les dames nues qui se trouvaient sur les glaces.
Et puis, voilà. Il a perdu son mobilier voluptueux. Pour l'instant, il est devenu un petit peu sec, mais enfin, on en comprend bien quand même l'ambiance. Alors, dans ces boudoirs, il y a une figure Boucher rend évidemment célèbre, et que tous les élèves de collège feuilletant le Larousse regardaient avec concupiscence, c'est Madame Aurélie, qui est quand même un des tableaux qui se passe dans un boudoir, et dans lequel vous le décrivez, c'est assez extraordinaire, la relation de la jeune femme à son mobilier, à ses draps, à ses coussins, devient assez étrange, puisque cet ensemble-là devient quasiment anthropomorphisé.
Oui, alors vous parlez d'un tableau qui est très célèbre, qu'on appelle aussi l'Odélisque blonde. C'est un tableau de Boucher qui est maintenant conservé à Munich, et qui représente une femme nue, complètement nue. Là, pour le coup, elle a même plus, elle a abandonné même ses bas et ses mules, et elle est couchée sur le ventre, sur un sofa. Et elle présente une croupe voluptueuse, comme dirait Diderot. Et au fond, alors, c'est une commande, c'est une des rares commandes qui est documentée. Ça a été réalisé pour le frère de Madame de Pompadour, qui est le marquis de Marigny, qui est le directeur des bâtiments du roi, donc l'équivalent du ministre de la Culture de Louis XV, c'est quand même pas rien. Et il a commandé cette peinture pour orner un petit cabinet voluptueux. On a conservé la lettre de commande, et il parle de son petit cabinet voluptueux, et c'est pour ça qu'il est important pour lui d'avoir une dame qui devait correspondre aux dames qu'il invitait, sans doute tarifées dans ce cabinet voluptueux, et qui s'accorde très voluptueusement au mobilier qui est destiné à la consommation des plaisirs.
Et alors, cette dame a été remarquée par Madame de Pompadour et proposée au roi, non ?
Oui, c'est une histoire assez complexe, mais enfin qui a été racontée par Casanova lui-même. Il en parle dans ses mémoires. Il dit qu'il a rencontré la jeune femme qui servait de modèle pour les peintres. Il ne parle pas de Boucher, mais enfin on comprend que c'est pour Boucher. Il dit qu'il s'est diverti avec la dame en la laissant intacte, hein, je cite, et que les tableaux qui avaient été faits à partir de cette dame, et donc le tableau de Marigny a été présenté à Louis XV, et que Louis XV s'est intéressé, et qu'elle est devenue une suppléante de Madame de Pompadour, puisque Madame de Pompadour, assez vite, de maîtresse royale, est devenue la meilleure amie du roi, et elle s'occupait de ses plaisirs, et notamment de ce type de plaisirs.
Alors il y a un autre tableau assez connu, on pourrait d'ailleurs en écouter la description paradoxale qu'en fait Diderot, qui est cette fois-ci la brune, si je puis dire. Et nous allons donc écouter Diderot à propos de l'odalisque brune.
Car enfin, n'avons-nous pas vu au salon, il y a 7 ou 8 ans, une femme toute nue, étendue sur des oreillers, jambes de ça, jambes de là, offrant la tête la plus voluptueuse, le plus beau dos, les plus belles fesses, invitant au plaisir et y invitant par l'attitude la plus facile, la plus commode, à ce qu'on dit même la plus naturelle et la plus avantageuse. Je dis que nos académiciens se soucient bien autrement du talent que de la décence. N'en déplaise à Boucher qui n'avait pas rougi de prostituer lui-même sa femme d'après laquelle il avait peint cette figure voluptueuse.
Mathilde Cortet-Lemaire, vous avez entendu cette remarque de Diderot, et c'est assez étrange, on a la sensation que Diderot bascule et commence à avoir une attitude extrêmement sévère à l'égard de l'art libertin.
Oui, alors Diderot, il est très ambigu. C'est quand même lui qui va écrire dans Le Neveu de Rameau, Mes pensées, ce sont mes catins, mais c'est un texte qu'il ne publiera pas de son vivant. C'est lui aussi qui a écrit un texte absolument drôlissime qui s'appelle Les bijoux indiscrets. Les bijoux indiscrets, c'est un mauvais génie qui va faire parler les bijoux des femmes, autrement dit leur sexe. Et donc on a toute une promenade effectivement du côté du féminin. Et je pense que en fait tout va changer à partir de la publication en fait du roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, entre 1761 et 1764. Et à partir de ce moment-là, on va basculer vers une sorte de condamnation un petit peu prudente du libertinage, une condamnation qui vise tout simplement à se protéger, parce que les libertins sont de plus en plus associés à des aristocrates débauchés, et se laisser emporter sur ce terrain-là, c'est un petit peu mettre en péril toutes les idées neuves que l'on pourrait vouloir apporter, aussi bien sur l'art, sur la peinture, que sur la politique, parce que effectivement, dès les années 60, on sent effectivement ce mouvement arriver. Alors cette remise en cause, elle nous étonne, mais encore une fois, c'est, je dirais, aussi un petit peu une stratégie. Et puis Diderot, d'une certaine façon, nous rend les choses tout de même alléchantes. Enfin, il décrit quand même les choses d'une façon un petit peu proxénète. Enfin, il nous laisse entrevoir ce que la peinture de Boucher nous donne à voir. Donc, on est vraiment, je pense, dans une ambiguïté remarquable et très très représentative. C'est-à-dire que on est vraiment toujours sur le point de céder au désir, et en même temps, on est toujours extrêmement prudent. On va néanmoins un petit peu s'auto-censurer ou faire semblant de ne pas tout à fait cautionner. Donc ça ne doit pas être surprenant.
Alors, Guillaume Farou, il y a un peintre considérable, un peintre immense selon moi, évidemment Fragonard, qui va subir dans son existence. Lui, il est à la fois admirateur de Watteau, élève de Boucher, et il va être un des plus grands artistes de son époque, commençant de façon très historique, et comme un artiste d'histoire, un peintre d'histoire et d'histoire religieuse, et va devenir un grand artiste érotique, si je puis dire, et il va subir cela. Et la question que je voudrais vous poser, c'est chez lui, chez cet extraordinaire Fragonard, il y a une vitesse, une façon de s'emporter, une façon de s'enthousiasmer dans son pinceau même, qui donne la sensation que l'excitation qu'il nous procure en nous montrant ces images, il la ressent dans le geste même du peintre qui a une peinture d'une centrifuge, une peinture d'énergie.
Oui, complètement. On parlait de Michel Delon qui est un grand universitaire et un grand spécialiste de l'énergie au XVIIIe siècle. Et au fond, Fragonard, ça serait un peu l'équivalent de Diderot. Diderot, il a cette énergie-là dans son écriture, et notamment dans son écriture critique, hein, quand il écrit ses salons où il commente les tableaux de ses contemporains, et de Fragonard notamment, il a une énergie, il a une faconde, il a une capacité, un verbe qui se projette comme ça, qui semble être capable de jaillir et de d'atteindre ou finalement la spontanéité du réel. Fragonard, il a cette même aptitude, cette même amplitude. Il a dans son pinceau qui semble spontané, en fait c'est quand même extrêmement réfléchi, dans son pinceau il semble être capable de saisir l'étincelle du désir. Là pour le coup, il y a une très grande historienne de l'art américaine, Mary Sherriff, qui avait réussi à montrer justement que cette peinture de chic, on parle de tartouille à l'époque de Fragonard, cette peinture comme ça extrêmement vigoureuse, très très chromatique, est une peinture qui essaie et qui parvient à rendre l'impulsivité du désir. Il y a ça chez Fragonard, mais en fait Fragonard, vous l'avez dit, c'est un artiste immense, et Fragonard, il est capable de ça, mais il est aussi capable de peindre de manière beaucoup plus vaporeuse, méticuleuse, de suggérer. Il peut suggérer à la fois le désir, il peut suggérer la tendresse, et du coup, cette caresse qui est beaucoup plus empathique, ou il peut aussi, il peut même aller jusqu'à un amour plus profond, plus passionné, plus romantique. Il peut aller, au fond, il peut aller de Diderot jusqu'à Rousseau. Enfin, Il a cette amplitude. Il peut tout évoquer sous ses pinceaux.
Alors moi, il m'évoque quelqu'un qui va vous surprendre peut-être, mais j'ai le courage d'aller jusque là. C'est Picasso. Il y a chez Picasso à un certain moment une phrase où il y a une sorte de désir de toucher le modèle. On va l'écouter.
Je veux dire le nu. Je ne veux pas faire un nu comme un nu. Je veux seulement dire sein, dire pied, dire main, ventre. Trouver le moyen de le dire et ça suffit. Je ne veux pas peindre le nu de la tête aux pieds, mais arriver à dire, voilà ce que je veux. Un seul mot suffit quand on parle. Ici, un seul regard et le nu te dit ce qu'il est sans phrase. Il faut trouver le moyen de faire le nu comme il est.
Guillaume Farou, ce propos de Picasso me fait penser à un formidable Lavis de Fragonard. C'est un petit Lavis dans lequel l'ensemble des drapés donne la sensation de s'ouvrir comme les lèvres, et d'ailleurs c'est vous qui y faites allusion dans votre livre, comme les petites lèvres d'un sexe. Et vous évoquez à ce moment-là la façon dont on définissait ces lèvres à l'Académie. Et ce serait intéressant de voir si c'est volontaire, que vous nous disiez si vous pensez que cette métaphore, l'apparition des plis de la chair dans le dessin même de l'étreinte, est quelque chose qui est volontaire.
Vous évoquez un très beau Lavis qui s'appelle Le lit aux amours. Et en fait, c'est un dessin qui est un Besançon. Et où on voit effectivement tous ces plis. Alors en fait, je le dis, tout ça, je fais ces rapprochements, mais j'ai eu beaucoup de devanciers, et les tout premiers qui ont osé cette suggestion, ce sont les Goncourt, donc les grands redécouvreurs de Fragonard au XIXe siècle, et qui ont remarqué que les plis sont surabondants chez Fragonard, et ils se sont demandé si ça n'évoquait pas les plis de la chair, voire les plis les plus intimes de la chair. Et depuis, d'ailleurs, Daniel Arras a repris cette idée. Hein. Et c'est probablement assez conscient.
Assez conscient. Mathilde Cortet-Lemaire, vous entendez cela, on est dans un moment d'extraordinaire volupté, il va y avoir, et vous nous en parlerez aussi Guillaume, j'imagine, ce tableau fabuleux du verrou de Fragonard qui a un sens tellement mystérieux au fond, puisque dans son opposition à un autre tableau, il est très mystérieux, mais il y a un moment où après Fragonard, ou en tout cas où il y a une sorte de déclin dans le siècle de l'érotisme, comme si tout allait se rigidifier. Alors c'est vrai, le néoclassicisme arrive, mais est-ce qu'on le sent en littérature, ce moment où de la contrainte qui reviendrait ?
Bien sûr, alors j'ai presque envie de faire une petite histoire très rapide et aussi de conclure sur Fragonard parce que Guillaume Farou cite une anecdote que je ne raconterai pas, vous la découvrez, mais il conclut en citant ces mots de Fragonard qui disait « je peindrai avec mon cul ». Alors c'est beaucoup plus subtil que cela, hein, je résume très grossièrement les choses, mais je crois qu'il y a à la fois cette peinture qui est viscérale comme Picasso, le rapprochement me paraissait tout à fait intéressant, et en même temps une peinture très intellectuelle. Et avant de venir à ce que va devenir peut-être la littérature et peut-être la peinture aussi, j'aurais juste voulu quand même citer un tout petit passage de Crébillon, parce que lorsque l'on me parle de Fragonard, ce n'est pas tout à fait contemporain, mais Crébillon vient juste avant. Je pense immédiatement à Crébillon dans justement ce tourbillon, cette capture extrêmement sensible de tous ces flux de désir. Et je voudrais vous citer donc un passage d'un dialogue absolument magnifique, « La nuit et le moment », c'est un dialogue de séduction. Voici ce petit passage. « Jamais les femmes n'ont mis moins de grimaces dans la société. Jamais l'on a moins affecté la vertu. On se plaît, on se prend. S'ennuie-t-on l'un avec l'autre, on se quitte avec tout aussi peu de cérémonie que l'on s'est pris. Revient-on à se plaire, on se reprend avec autant de vivacité que si c'était la première fois qu'on s'engagea ensemble. On se quitte encore et jamais on ne se brouille. Alors, je ne vous lirai pas tout le passage, mais c'est absolument sublime. Et on est dans cette vivacité, dans ce désir impalpable et fuyant. Et il est vrai que, je vous ai parlé de Rousseau tout à l'heure, qui, d'une façon très emphatique, déclare dans sa préface, donc à la Nouvelle Héloïse, « Jamais fille chaste n'a lu de roman ». Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il me semble qu'il poursuit en disant « Mais bon, tant pis, si elle a déjà commencé, c'est pas grave. Elle est déjà perdue, donc elle continue. » Et Rousseau va être en fait suivi par une série d'ouvrages, et un ouvrage notamment passionnant qui est donc « Les liaisons dangereuses ». Et on voit bien, effectivement, j'ai envie de dire, on parlait des crépuscules de bateau, là on est dans le crépuscule du libertinage. On voit effectivement une sorte d'inquiétude, on voit se refermer cette liberté. On est dans les derniers feux du libertinage, dernier feu du libertinage qui brille aussi extrêmement par cette voix de femme, mais un libertinage qui va être très très vite, enfin il va y avoir une sorte de liberté pendant la Révolution française, de liberté, j'ai envie de dire intime, personnelle, mais très vite va suivre le grand renfermement, et puis j'ai envie de dire aussi la rigueur bourgeoise qui va enfermer finalement la femme dans deux rôles, essentiellement celui de la prostituée ou celui de la mère, et qui va en fait littéralement faire disparaître toutes ces nuances extrêmement subtiles de l'amour, du désir, ce chatoiement très insaisissable. Fragonard, il est absolument génial, parce que je crois que Guillaume Farou fait un résumé, et en fait on s'aperçoit que Fragonard peut absolument tout représenter. Tous ces éclats de désir qui sont passés dans la peinture au XVIIIe siècle, on peut absolument tous les retrouver dans un tableau, dans une illustration de Fragonard.
Et donc pourtant, Guillaume, Fragonard est peu à peu disgracié, en quelque sorte. La Révolution et l'époque n'est plus la sienne. Même Diderot préfère Greuze contre Fragonard. Le néoclassicisme approche Fragonard, est pourtant assez proche de Gérard, par exemple. Mais l'époque change, n'est-ce pas ?
Alors, l'époque change, mais Fragonard apparemment s'en exclut lui-même. J'ai une tendresse pour Fragonard. Bon, vous l'avez bien compris, que je partage avec une grande spécialiste de Fragonard qui est Marianne Dupuis-Vacher. Et on pense que Fragonard moi je pense que c'est un dépressif joyeux, et malheureusement à la fin la dépression l'a un peu emporté. Et c'est très curieux, Fragonard arrête de peindre alors qu'il est en pleine gloire. Il arrête de peindre au cours des années 1780, alors que ses tableaux se vendent très cher, alors qu'il est encore très demandé. Et même les néoclassiques peuvent sembler les plus radicaux, les plus rigoureux. Jacques-Louis David, c'est vraiment le grand peintre de la Révolution, celui qui peint la mort de Marat, qui sera ensuite...
Mais il a été élève de Fragonard, ou je me trompe ?
Il a été un petit peu élève de Fragonard, et puis surtout, il a défendu. C'est-à-dire que quand Fragonard, une des explications, c'est qu'il perd sa fille quand elle a 18 ans. Et c'est un des moments qui correspond aussi au moment où il arrête de peindre. Enfin, il y a un traumatisme très profond. Et donc, pendant la Révolution, Fragonard, il est un peu désœuvré. Et c'est David qui va soutenir Fragonard. C'est David qui va le faire devenir conservateur du Louvre. C'est un de mes prédécesseurs. Donc, vous voyez, c'est Fragonard, en fait, qui se met en retrait de la période, pour des raisons sans doute très privées, enfin complexes, mais des artistes qui pourraient sembler complètement opposés à Fragonard l'ont soutenu. Et justement, David, quand il dit « bon, il faut qu'il devienne conservateur du Louvre », puisque Fragonard a contribué en peignant à produire des chefs-d'œuvre qui ont destination à être présentés au Louvre. Donc il est quand même soutenu. Justement, j'étais content que vous parliez de David, parce que je montre une œuvre que je trouve très emblématique de ce renversement à la fin du livre. C'est pas la dernière œuvre, mais c'est une des dernières œuvres. Je montre le couronnement de Napoléon. Et le couronnement de Napoléon, il est représenté par David, c'est un des grands chefs-d'œuvre du Louvre. Et c'est le moment où Napoléon, en majesté, porte la couronne qu'il va poser sur la tête de son épouse, Joséphine. Mais c'est très très intéressant, puisque c'est un moment où, au fond, l'homme est maître de tout, hein, et c'est Napoléon lui-même qui se couronne, il couronne son épouse, et ça y est, enfin, la femme, elle doit tout à son seigneur et maître. Enfin,
oui, alors que toutes les peintures que vous avez montrées dans le reste du livre, ce sont des gentilshommes agenouillés devant leurs épouses, devant les jeunes femmes. C'est l'inversion.
Il y a vraiment... Oui, c'est vraiment l'inversion, c'est-à-dire que du coup, tout ce qui portait la culture galante, c'est-à-dire une prééminence de la civilisation régulée par la douceur féminine, ben, ça y est, c'est fini. Ça a été balayé avec la vertu prônée par les philosophes, par Diderot, et prônée par les révolutionnaires. On est tous au même niveau, et au fond, tous citoyens, et les femmes, elles sont subordonnées du père de famille, c'est vraiment ça. Et puis, finalement, c'est ce que semble évoquer David.
Et en même temps, il y a pas de doute, il y a quand même à ce moment-là un durcissement de la liberté même de la peinture, comme si la liberté du langage, des mœurs et des élans permettait quelque chose de beaucoup plus intense. Ça me fait penser à un petit texte de Barthes dans le fragment du discours amoureux. Juste un instant sur le langage, écoutons-le.
Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir.
La langue, n'est-ce pas, Mathilde Cortet-Lemaire, tremble de désir à cette période-là, et la peinture aussi. Si vous ne ressentez pas qu'il y a cette tension entre la règle académique, la liberté des artistes, la liberté de la pensée, est-ce que ce tremblement du désir, vous le ressentez, Mathilde, dans cette période?
Alors, oui, bien sûr, et je pense que c'est ça qui est extrêmement beau au XVIIIe siècle, c'est ce trembler, cette sorte de béance entre deux qui est extrêmement... très volatile. Et il me semble que pendant la Révolution, on va avoir tout autre chose sur le désir. Je crois que Guillaume Farou donne quelques illustrations de Lequeux, ou quelques illustrations également des ouvrages de Sade. Et on voit bien, là on est dans de la pornographie vraiment extrêmement précise, enfin extrêmement troublante, et on voit bien que le désir d'une certaine façon s'évanouit de ces représentations peut-être trop exactes.
En tout cas, il se construit d'une façon beaucoup plus dure d'une certaine façon.
Oui, il y a une sorte de désir presque agressif. Enfin, on n'est plus uniquement dans la liberté d'offenser ou de construire ou de faire avancer les choses. Il y a une sorte de violence qui est faite avec ce nouveau langage pictural. Mais on a beaucoup parlé des femmes. Mais moi, il y a un tableau que j'aimerais retenir de cet ouvrage et peut-être de cette heure aussi de conversation. C'est Hercule et Omphale, un magnifique tableau de Boucher où justement on a ce renversement et on a cette sorte de frôlement de désir qui passe. Alors, Hercule et Omphale, c'est un mythe antique. En fait, Hercule va être soumis complètement à la reine Omphale et il va lui donner sa peau de lion. Et lui va être obligé de se revêtir de vêtements de femme et de prendre la quenouille. Et donc ce tableau est absolument magnifique parce que on pourrait penser qu'il y a un renversement qui marque un renversement de soumission. Et en fait non, on voit deux amants qui sont dans un élan amoureux et de désir absolument sublime, qui les met, j'ai envie de dire, sur le même pied. Et en même temps, il y a cette toute petite subversion et cette idée que effectivement le désir peut-être lorsqu'il est porté, alors je ne dirais pas par la femme mais par du féminin, c'est-à-dire par tout ce raffinement, cette façon finalement de voir le monde autrement, c'est-à-dire avec un... Mais... Je crois que le 18e c'est aussi un siècle qui s'intéresse au monde et qui essaie de le voir peut-être à travers les yeux de ce qu'on pourrait imaginer être les yeux d'une femme.
Et merci là, Mathilde pour ce beau commentaire sur l'importance du désir. Merci Mathilde Cortet-Lemaire, merci Guillaume Faroult, à bientôt.
Merci beaucoup.
Argent de Loisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Mathilde Cortet-Lemaire, historienne de la littérature du XVIIIe siècle, et Guillaume Faroult, conservateur des peintures au musée du Louvre, pour son livre magnifique qui s'appelle « L'amour peindre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle ». Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, recherche documentaire Maureen Roy, à la technique Adèle Caglar, réalisation Thomas Jost, lecture des textes Johanna Nizar.